qu'on peut dire une prédication, une méditation, mais on se pose la question, la foi en question. Et on va un peu plus théologiquement, on rentre un peu plus dans le détail de notre foi pour se poser la question et savoir un petit peu la solidité de notre foi et en quoi nous croyons ou qu'est-ce que nous professons. Et aujourd'hui, le thème, il est un petit peu, j'allais dire difficile, non, je dirais pas évident. Et ce thème nous a été posé par au moins une personne de l'Église il y a quelques mois de cela. La question était, pourquoi dans nos églises, on ne voit pas les prophètes et des prophéties ? Pourtant, si on lit bien Corinthiens et Thessaloniciens, on voit bien que cette question est soulevée. Le don de prophète, de prophétie, y est bien mentionné. Et la question était, mais pourquoi dans nos églises, on n'en trouve pas aujourd'hui, on n'a pas, on ne voit pas ce don qui s'exprime? C'est une très bonne question. Très, très bonne question. Donc, dans le corps pastoral, on avait dit, voilà, on va la proposer. Et puis, c'est tombé sur moi. Donc, ça fait 4-5 mois que je prépare la question. Alors, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui n'est pas de moi. Vous savez bien que je ne suis pas un théologien, je n'ai même pas fait d'études théologiques. Mais j'ai mis beaucoup de temps à préparer, à étudier, à rentrer dans le détail de cette question et de ces dons. Et si je peux apporter quelque chose aujourd'hui, c'est la manière dont juste je vais les résumer et je veux l'apporter de sorte que soit facile à comprendre à la fin, tout au moins j'espère et je suppose. Alors, comment on va faire? Comment on va apporter cette question? Comment on va la discuter? La première chose, on va faire une lecture biblique. Le texte qui est connu de tout le monde et qui parle de prophètes et de prophéties, c'est 1 Corinthiens 14. Mais cette fois-ci, je ne vais pas vous demander d'ouvrir vos Bibles. Ce que je vais vous demander, c'est de suivre ma lecture. Ce n'est pas parce que ma Bible est différente de la vôtre, bien sûr, vous le savez, c'est parce que dans ma lecture, je vais apporter déjà un petit peu de commentaires qui est important. En d'autres termes, déjà dès le début, on va voir la totalité de comment on peut répondre à la question, sans pourtant rentrer dans les détails, on va reprendre après les détails. Après, qu'est-ce qu'on va se faire? On va dire, qu'est-ce qui caractérise un prophète sous l'Ancienne Alliance? C'est très important parce que nous tous, quand on parle de prophète et prophétie, à quoi vous pensez? Allez, vous le savez, Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie, ainsi de suite. C'est surtout ces grands prophètes qui nous viennent à l'esprit. Donc, il est important de revenir un peu en arrière et de se voir qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot et ce ministère que ces prophètes ont. La deuxième chose, je vais ouvrir une parenthèse. Ça va vous paraître pourquoi, mais vous allez voir l'utilité. Quand Paul va écrire aux Corinthiens et aux Thessaloniciens, il va écrire à des personnes qui ne sont pas du tout hébreux, pas du tout juifs ou israélites. Et vous allez voir, quand il parle le mot prophète, bon, ça ne va pas trop s'éloigner de ce que nous on connaît, mais eux, ils peuvent penser à quelque chose d'autre que nous. Et je donnerai d'autres exemples qui prouvent ceci. Et puis, bien sûr, après, on va attaquer la question. Mais on aurait déjà fait pas mal de chemin. On va voir la pratique de la prophétie sous la Nouvelle Alliance, à partir de Jésus, du Saint-Esprit, comment les prophètes et les prophéties ont été pratiquées. On va bien rentrer dans la question, c'est quoi le don de prophétie, de prophète et de prophétie? On va voir son utilité dans l'Église, tout ceci à partir de Corinthiens 14, mais on va voir une chose importante, c'est que l'apôtre Paul va le limiter, ses fonctions, et il va dire qu'il faut quand même avoir du discernement dans cette fonction. On y reviendra en détail. Et puis, bien sûr, on va revenir à la question, ne devrions-nous pas aspirer à la prophétie? Et j'utilise bien ce terme « aspirer ». Quand on parle de don, on peut dire « c'est Dieu qui l'envoie ». Donc, ce n'est pas nous. Mais là, l'apôtre Paul va utiliser un terme spécial, « aspirer », »,« désirer ce don », »,« aller le chercher ». Donc, on va y revenir à la fin, mais ça ne sera pas fini. Ça ne sera pas fini, on ne peut pas en 50 minutes faire la totalité de ce sujet. Je vous donne rendez-vous le mardi 28 mai, pendant notre étude biblique à 20h, pour continuer. Et la première, vous allez tous me dire, et Agabus, ceux qui connaissent bien leur Bible et surtout les Actes des Apôtres, ils vont avoir en tête la prophétie d'Agabus, comment les chrétiens de Césarée l'ont pris et comment l'apôtre Paul l'a pris. Donc, si vous avez ça en tête, patientez, on reviendra le 28 mai, le mardi, et à la fin, on étudiera toujours mardi la question comment l'Église peut-elle aspirer à ce don sans tomber dans l'excès. C'est clair? Essayez de procéder pour comprendre ce don, prophète et prophétie. Alors, on va lire ensemble, donc, 1 Corinthiens 14. On ne va pas le lire en entier. C'est pour cela que je ne vous demande pas d'ouvrir vos Bibles. Mais suivez-moi. C'est Corinthiens 14, vous avez tout le loisir après de le lire chez vous avec la traduction que vous avez, que vous préférez. Mais pour l'instant, restez avec moi. 1 Corinthiens 14. Alors, déjà, l'apôtre Paul commence de cette manière. Recherchez la charité, l'amour, hein, dans les autres versions. J'aime toujours second 1910, mais les nouvelles traductions, au lieu de charité, mettent l'amour. Donc, si vous voulez, allez, recherchez l'amour. Aspirez aussi au don spirituel et aspirez au don spirituel. Et ici, il va le mettre au pluriel, au don spirituel, au pluriel. C'est important, vous allez voir pourquoi. Mais surtout à celui de prophétie. Donc, déjà, l'apôtre Paul met un accent particulier à ce don. Et ça, on ne peut pas le nier, On ne peut pas enlever ça de la Bible. L'apôtre Paul nous incite à aspirer à ce don. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va reprendre pour expliquer le pourquoi et pour expliquer c'est quoi ce don aux Corinthiens, il va faire un exemple et il va faire une comparaison entre le don de langue qui était exercé d'une manière très, 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 très grande dans l'église de Corinthe. Tous, ils voulaient tous et tous parler en langue. Et ils voulaient tous dire qu'ils parlent en langue et se glorifier de cela. Donc, c'est pour cela qu'il va prendre ce don que eux voulaient l'avoir. Et il va en faire la comparaison avec le don de prophétie. Pas pour parler du don de langue ou pour l'amoindrir, pas du tout. Mais pour mettre en valeur ce que lui veut qu'ils comprennent du don de prophète et prophétie. Et voilà ce qu'il va leur dire. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit de mystère. Il va dire, vous arrivez à lire? D'accord. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Donc, la première caractéristique, il va leur dire que celui qui prophétise, c'est à l'Église qu'il parle, c'est aux hommes. Il va édifier l'Église, il va exhorter, il va consoler l'Église. Donc, on commence à comprendre un petit peu c'est quoi ce don, déjà. On y reviendra, hein? Je vous ai dit au départ, on va voir la globalité. Oui. Ah, je te le dirai après, à nous deux. Je te le dirai à la fin, entre nous. Hein? Tu es d'accord, Olivia? C'est pas gênant. Sinon, ça va nous amener à une autre méditation. Celui qui parle en langue, oublie ce mot, s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Donc, c'est l'importance de ce don tourné vers l'Église. Je désire que vous parliez en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Donc, on voit un petit peu ce désir de l'apôtre Paul qu'il prophétise pour l'édification de l'Église, pour qu'elle soit consolée, pour qu'elle soit exhortée. Et il continue, et là, entre le 6 et le 22, je ne vais pas tout vous dire parce que c'est inutile, mais je vais vous ressortir uniquement ce qui est important pour notre méditation de ce matin. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas par révélation, par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? En d'autres termes, là, il va comparer les autres dons importants qu'on connaît, le don de la révélation, de connaissance, de doctrine, de ceux qui instruisent, ainsi de suite, et il met le don de prophétie avec. D'accord? Si je ne vous parlais par révélation dans doctrine. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi que 10 000 en d'autres langues. En d'autres termes, là, on a une autre particularité qui sort, c'est qu'on parle, celui qui prophétise comme celui qui a le don de la connaissance, de révélation, ainsi de suite, il parle de lui-même. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas reçu de révélation. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit son esprit est soumis à lui-même, c'est par ses propres mots qu'il va apporter une révélation, par sa propre intelligence. Et la différence est importante. On le verra un peu plus loin. C'est important de le signaler. Et puis après, il dit, par conséquent, les langues sont ainsi, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Oublie Olivia ça, on verra après. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. C'est un signe pour les croyants que Dieu est parmi eux, que Dieu parle dans l'Église, qu'il est à travers eux. Mais, c'est pas... Il ajoute quelque chose quand même d'autre, un peu plus, juste un verset plus loin. Il dit, si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlant langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Oubliez ça, c'est pas le but. Là, ce que j'ai souligné, mais si tous prophétisent, là, on va voir une autre caractéristique du don de prophétie et de prophète, hein, autre que exhorter, enseigner, ainsi de suite. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Donc, en d'autres termes, il peut aussi servir à des non-croyants. Et là, le don de prophétie, c'est un don de révélation d'un péché caché chez quelqu'un. D'accord? On ne peut pas non plus le nier. Et que celui, le non-croyant qui l'écoute, ben là, il est touché, il tombe à face. Oui, Dieu est réellement parmi vous. Et pour finir, je saute maintenant jusqu'à la fin. Pour ce qui est des prophètes, donc comment il est exercé ce don? Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et quand je vais vous dire la signification de ce mot juge, ça va vous étonner. Que veut dire juger pour un grec quand il entend ce mot? Et si un autre qui est assis a une révélation, qui est en train de prophétiser, mais que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Il parle avec ses propres mots, son propre intelligence. Il faut bien faire attention à cela et le garder en mémoire. car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et il finit, je vous ai dit, il commence son exposé par aspirer. Il nous pousse à aspirer à ce don. Et il finit son exposé en insistant, en tapant encore sur nos têtes. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie. Il nous exhorte à aspirer à ce don. Et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et ordre. Et c'est très important de voir comment l'apôtre Paul, tout en insistant à rechercher ce don, il dit quand même avec bienséance et ordre dans l'Église. Avant d'aller plus loin, on va se courber la tête et remettre ces instants à notre Seigneur. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te sommes reconnaissants de nous avoir laissé ces quelques paroles et ces quelques exhortations. Nous réclamons tous ensemble ta présence parmi nous et que ton Saint-Esprit, et pas notre parole, nos propres paroles, nous instruisent aujourd'hui. S'il te plaît, mon Dieu, sois présent parmi nous et que ton nom soit glorifié. Amen. C'est très important de mettre ces moments devant Dieu parce que ce n'est pas évident de parler de ce sujet et qu'on peut très facilement parler de ce qu'on avait envie. Donc c'est pour cela que j'insiste sur ça. Alors, maintenant, si je vous pose une question, que veut dire prophète? Qu'est-ce que vous sous-entendez par prophète et par prophétie? Pardon? Il déclare nos péchés. Enfin, très bien, voilà ce que Nadia pense.
Ce sont des personnes qui transmettent à l'Église des paroles venant de Dieu.
Très bien. Transmettent à l'Église des paroles ou une révélation de la part de Dieu pour l'Église. Un envoyé de Dieu. Il y en a d'autres? Alors, vous voyez que la plupart de nous, quand on pense aux prophètes, comme je vous l'ai dit, on pense... on a nos propres pensées. Alors, si vous regardez un petit peu, le problème, parce que je n'arrive pas à lire de loin, si vous posez des questions, il y en a qui disent prédire l'avenir. Non, c'est plutôt là-bas. Ça va, Nadia, merci. Ou proclamer des paroles, une parole de Dieu. Prédire avec puissance. Alors, prêcher avec puissance. J'arrive pas à lire. J'aurais dû mettre tout en noir pour que je puisse lire. Wayne Grudem, que j'aime beaucoup ses écrits, lui, il résume, avant d'exposer un peu après pourquoi il pense ainsi, il dit, c'est dire quelque chose qui est spontanément venu à l'esprit de la part de Dieu. Bon, après, il va mettre beaucoup dans ses écrits à expliquer le pourquoi, ainsi de suite. Mais j'ai trouvé important et intéressant cette manière de définir prophète et prophétie. Dire quelque chose qui nous vient spontanément à l'esprit de la part de Dieu. Pas pour nous, mais bien sûr pour les autres. Alors, je vous ai dit qu'il est très important. Voilà. Alors, qu'est-ce qui caractérise prophète selon l'Ancien Testament? Si on parle maintenant de prophète, qu'est-ce qui le caractérise? Il y a au moins trois choses qu'on doit retenir. Il y en a beaucoup plus. Ceux qui connaissent bien leur Bible vont me dire, Simon, mais il y en a encore ça, il y en a ça. Oui, j'admets. Mais il y en a au moins trois qu'on doit avoir à l'esprit ce matin. La première, c'est qu'ils étaient capables, je l'ai mis en rouge, de prononcer et de mettre par écrit des paroles qui avaient une autorité divine absolue. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord? On ne peut pas nier ça. Eux pouvaient dire, ainsi parle l'Éternel. C'est comme ça qu'ils parlaient les prophètes, toujours. Ainsi parle l'Éternel. Et ceux qui mettaient par écrit la parole de Dieu, pour ceux qui rejettent ces paroles, pour qui le refusent, c'est Dieu lui-même qu'il rejette. Pas uniquement le prophète, mais il rejette Dieu lui-même. Vous avez ici beaucoup de versets bibliques. Vous pouvez aller rechercher pour vérifier. Ne le faites pas maintenant. Faites-le une autre fois. Restez avec moi aujourd'hui. Rejetez les paroles des prophètes. Revenez à rejeter Dieu et lui désobéir. Mais beaucoup s'arrêtent ici. Et maintenant, je vais vous donner une autre caractéristique que je trouve désolée, parce que malgré tout, les commentaires que j'ai lus, j'en ai pas trouvé un qui l'a cité. Donc, je me suis permis de l'ajouter comme aussi très important. C'est que le prophète était une sentinelle. Et ça, c'est très important. Ézéchiel, Dieu va lui dire, « La parole de l'Éternel me fut adressée, et regardez, me fut adressée ainsi par l'Éternel. » Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire la chose suivante. C'est Dieu qui parle, ce n'est pas Ézéchiel. Hein? Il va dire, il va donner un exemple de sentinelle. Il dit, tu vois la sentinelle, Ézéchiel? Si un peuple qui a nommé une sentinelle pour garder la ville, si cette sentinelle voit arriver l'épée, donc une armée étrangère, qui ne réveille pas le peuple pour se défendre, le restant du peuple a le droit de tuer la sentinelle parce qu'elle n'a pas fait son devoir. Mais si la sentinelle sonne la trompette, mais les gens ne se réveillent pas pour se défendre, c'est leur faute. Et tant pis pour eux s'ils meurent. Il commence comme ça, le Seigneur, l'Éternel a dit, et puis il va lui dire la chose suivante. « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche. » Ce n'est pas ce que tu veux, tu vas leur dire. Tu vas leur dire ce que je vais te dire, qui sort de ma bouche, et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, « Méchant, tu mourras. » Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voix, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Ça sera ta faute à toi. C'est ça qu'il dit. C'est important être prophète. Je n'ai pas envie d'être un prophète de l'ancienne alliance. Hein? Nullement. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne se détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Mais le plus important que l'Éternel voulait dire à Ézéchiel, ce n'est pas que ça. Il va lui dire une parole très importante après. Il va lui dire, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. C'est qu'il change de conduite et qu'il vive. C'est ça le désir de Dieu. Et il le dit pour qu'on n'ait pas une mauvaise pensée de la sentinelle et du message du prophète. Si Dieu envoie le prophète, s'il lui met dans sa bouche quelque chose, même qu'il ne nous fait pas plaisir, c'est parce que Dieu ne veut pas que son peuple meure, mais qu'il se détourne de sa mauvaise voie. Donc c'est important de savoir cette deuxième caractéristique du prophète. C'était une sentinelle que Dieu met devant son peuple et qu'il peut mettre devant notre Église aujourd'hui. Il faut remettre dans le contexte actuel, afin qu'on se détourne et qu'on ne meure. Et il y avait une troisième caractéristique. Les paroles des prophètes pouvaient être accompagnées des miracles pour valider le message et le messager. Quand on a fait une étude sur le miracle, on en a parlé et on a vu que 80% des miracles, les miracles se produisent, 80-90% des cas, je vous l'ai démontré, c'est que pour attester le message et le messager. Quand Dieu fait des miracles, c'est pour attester le message et le messager qui est apporté. Ce n'est pas simplement comme ça, à tir de montre, comme ça. Hein. C'est, il y avait un but au miracle. Et on peut y revenir si vous n'êtes pas d'accord, je peux vous le redémontrer. Mettez ça en tête. Je vois là, l'heure qui court. Mettez ça en tête. Et je vais quand même dire quelque chose de très important. C'est que dans le Nouveau Testament, sous la Nouvelle Alliance, les personnes qui permettaient, qui prononçaient les paroles de Dieu, ne sont pas appelées prophètes. Comment ils sont appelés? Apôtres. Sont appelés apôtres. Eux pouvaient dire, j'ai reçu du Seigneur. Hein, vous vous rappelez les paroles de l'apôtre Paul? Lui pouvait dire, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai annoncé. Mon évangile n'est pas loin de moi, mais il m'a été révélé par le Seigneur. C'est ce qu'il dit l'apôtre Paul. L'apôtre Jean écrivait de la part du Seigneur. Il disait, ce que nous avons reçu. Eux pouvaient dire ça. Ils pouvaient dire ça, eux, mais on les appelait apôtres. Et puis après, et quand ils voulaient se déclarer avec autorité, le prophète disait, ainsi parle l'Éternel, les apôtres, pour attester leurs paroles, ils ne se déclaraient pas comme prophètes. Ils se déclaraient pour attester leurs paroles comme étant des apôtres du Christ. Comme étant des apôtres. Il y a une quinzaine de passages bibliques hein, qui le prouvent. Je peux vous les donner, je peux vous donner mes notes, que vous pouvez les revoir. Mais, apôtre, qu'est-ce qu'il veut dire? Quand on parle apôtre. Bon, apôtre. Si je vous dis que j'aurais pas dû afficher ça et vous poser la question, que veut dire apôtre? Apôtre veut dire envoyé de la part d'eux avec un message porte-parole. Moi, Libanais, oriental, hein, Milad aussi, et je pense la demoiselle, si je vais envoyer, par exemple, Nicolas dire quelque chose à Dieudonné, j'appelle Dieudonné, je lui dis, je t'envoie mon apôtre. C'est exactement le mot que je dis. Et je dis, Nicolas, tu es mon apôtre, va voir Dieudonné et dis-lui ça. Quand je parle, c'est comme ça que je dis, un envoyé. Je dis, apôtre, exactement le même mot qu'on donne aux apôtres. Apôtre veut dire envoyer, porte-parole, un messager. Mais il ne peut pas dire n'importe quoi. Il va dire ce que je lui ai dit de dire. C'est dans ce sens que les apôtres exerçaient. Ils ne disaient pas leurs propres paroles, mais ce que le Seigneur leur a dit. Hein? Un porte-parole, pas un apôtre, c'était ça. Alors, pour les apôtres aussi, leur message et le messager eux-mêmes étaient attestés par des miracles. Et on le voit dans tous les actes des apôtres, comment ils étaient attestés. C'était juste une parenthèse, mais on va y revenir. Toutes les parenthèses que je veux faire avant la fin n'est pas pour rien, ne sont pas gratuites. Il y a une raison à cela. Continuons notre réflexion maintenant, et je vous ai dit, il est important de savoir un petit peu que veut dire le mot prophète. Parce que si les Juifs, quand on parlait de prophète, avaient dans la tête une signification donnée, les Corinthiens, avec leur culture gréco-romaine, qu'est-ce qu'ils mettaient derrière ce mot? Qu'est-ce qu'ils mettaient derrière ce mot? Et je vais après vous dire que moi, aujourd'hui, je peux mettre un autre mot encore derrière le mot prophète, une autre signification. Mais revenons et dire. Alors, il ne signifie pas généralement celui qui prononce des paroles de la part de Dieu. Il peut le signifier, mais en plus, il signifie tout ceci. Il signifie celui qui parle en raison d'une influence extérieure, souvent spirituelle. Il signifie celui qui a une connaissance surnaturelle, celui qui prédit l'avenir, et il signifie aussi un porte-parole. Signifie aussi un porte-parole. Et si vous regardez les écrits de ce temps de Jésus, vous allez voir qu'en grec, on dit un philosophe est appelé un prophète d'une nature immortelle, dans un écrit littéraire. Un enseignant, Diogène, il est appelé prophète vrai et sincère. Il n'a rien de prophétie tel que nous en le voyons. Un enseignant est appelé prophète. Les défenseurs de la philosophie épicurienne, ça veut dire les disciples d'Épicure, sont appelés les prophètes d'Épicure dans la littérature grecque. Et du temps de Jésus, hein, de ce temps-là, je ne suis pas en train de dire maintenant. L'histoire écrite est appelée la prophétesse de la vérité. Un spécialiste, un botanique, est appelé prophète. Un charlatan en médecine est appelé prophète. Et dans la littérature orientale aujourd'hui, il y en a qui connaissent bien l'arabe, vont le savoir, il y en a des écrits qu'on appelle prophètes. Dans un qu'on appelle prophète, qui était très philosophe, il a le nom de prophète, mais il n'a rien prophétisé, il a écrit que des choses philosophiques. Il a écrit un long livre comme ça, un poème très beau, je le connais presque par cœur, tellement il est beau. Et la philosophie qu'il est en train... Elle sourit, je pense qu'elle a compris de quoi je parle, Milad aussi. Mais c'est très beau leur philosophie, comment elle est écrite de cette manière. On les appelle prophètes, mais aucun de nous, derrière sa tête, ne met ce que nous, en pensons aujourd'hui, de prophètes. Mais on leur donne ce nom. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de diminuer la prophétie et le prophète dans le Nouveau Testament. Je voulais juste essayer de vous dire comment ceux qui ont reçu la lettre de Paul, ils ont pu comprendre. Je vais ouvrir une autre parenthèse qui est importante. Peut-être, ça veut dire à quoi ça sert. Tout à l'heure, Nicolas nous a cité Hébreux, chapitre 1. Il nous a cité versets 1 et 2. Mais elle est importante. Je ne sais pas si vous avez saisi tout le derrière qu'il y a de ce que Nicolas nous a lu. Après avoir autrefois et à plusieurs reprises parlé à nos pères par les prophètes, là on parle à des Hébreux, donc ils connaissent ce que veut dire le mot prophète, c'est biblique, hein, le sens biblique du mot prophète, tel qu'on l'a défini. Après avoir autrefois et à plusieurs reprises parlé à nos pères par les prophètes, dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. C'est important de le mettre en tête. Dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Dieu avant parlait par les prophètes, mais dans ces derniers temps, Dieu nous parlait par le Fils. Très bien, juste gardez-le en mémoire. Ne faisiez aucune conclusion, gardez ceci en mémoire. Mais Timothée, là aussi, on parle de l'Écriture, on parle de la puissance de l'Écriture, l'autorité de l'Écriture, que c'est elle notre référence, et pas des paroles de prophètes ou des prophéties, c'est l'Écriture. Jude dit la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Et bien sûr, l'apôtre Pierre aussi parle de l'Écriture comme étant la source et unique parole de Dieu pour nous. N'enlevez en rien aux qualités du prophète. Je ne suis pas en train d'enlever, mais juste je vous dis, gardez ça en tête. Ça peut nous servir. Pourquoi Paul dit ceci et dit cela au sujet des prophètes après? Gardez-le en tête. Revenons maintenant à notre sujet. On n'a pas perdu trop de temps, je vous assure. Hein? Mais c'est important tout ce qu'on a fait pour la compréhension. Après, il est dit, je vais travailler un petit peu avec vous, la pratique de la prophétie sous la nouvelle alliance. Parce que c'était ça le sujet. Pourquoi aujourd'hui? Où sont les prophètes et les prophéties aujourd'hui? Hein? C'est ça la question. Mais c'était important de voir ce qu'on avait vu. Alors, qu'est-ce que le don de prophétie dans la Nouvelle Alliance? Alors, on a vu, d'après 1 Corinthiens 14, c'est quelqu'un qui a reçu une révélation de la part de Dieu. L'apôtre Paul dit une révélation. D'accord? Donc, ce n'est pas de lui-même. Ce n'est pas sa pensée. Même s'il va l'apporter avec sa parole, avec son esprit, mais quand même, il y a une révélation de Dieu pour l'Église. C'est une révélation de Dieu. Mais attention, le mot révélation tel qu'il est écrit, tel qu'il est cité ici, n'a rien à voir avec la révélation, avec un grand R théologique qui est la doctrine du salut, de la foi, ainsi de suite. Celle-là, on a vu qu'elle a été transmise par les apôtres, qu'elle a été écrite et finie, la foi a été transmise une fois pour toutes. Même si l'apôtre Paul utilise le mot révélation, ce n'est pas la grande révélation, la foi, la doctrine chrétienne, la doctrine du salut. D'accord? Ce n'est pas celle-là qui a été transmise une fois pour toutes. C'est une parole de la part du Seigneur qu'il adresse au peuple. Alors, on va passer parce que je vois le temps qui court. Maintenant, on passe maintenant, mais quelle est son utilité, la prophétie? Quelle est l'utilité de la prophétie ou du prophète? Et on l'a vu, c'est pour cela que je vous ai dit, suivez-moi dans la lecture. On a vu que ce qui était important pour eux, c'était consoler exhorter, édifier. Édifier, c'est grandir dans la foi. Donc Dieu va apporter une parole à travers un prophète ou une prophétie pour édifier l'Église, pour la faire grandir dans la foi. Pour l'exhorter, ça veut dire pour l'encourager. Peut-être qu'ils peuvent avoir, dans, pour une raison ou pour une autre, on n'est pas là pour définir pourquoi, mais le but, exhorter. Et puis après, pour consoler, pour réconforter, pour consoler. Hein? On connaît tous Barnabas qui s'appelait Joseph, et on a changé son nom en Barnabas, fils d'exhortation ou fils d'encouragement. À cause de son exhortation, son encouragement pour les chrétiens qui dans les premiers temps, subissaient la persécution. D'accord? Donc, voilà un petit peu, en gros, ce qu'on voit de son utilité dans l'Église. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, mais l'apôtre Paul souhaite insister sur ça. Pourquoi? Parce qu'il va nous dire, aspirer à ce don. Il va le dire pourquoi, c'est très important, l'Église soit édifiée, l'Église soit exhortée, l'Église soit consolée, elle en a besoin. Et puis après, c'était un signe pour les croyants. Moi je me rappelle bien, il y a une vingtaine d'années quand j'étais malade et que j'étais découragée et je reçois une carte de Madame Farelli, hein, qui m'exhorte en citant le passage de la Bible. « Pourquoi te promets-tu des regards inquiets ? Je suis l'Éternel ton Dieu », ainsi de suite. Hein. Je vais vous le... je pense que vous le connaissez, hein, Ézéchiel 41, 10. Mais je pense qu'elle a eu une révélation de Dieu, qui a envoyé une révélation. Et ce verset, je le garde toujours dans ma Bible. Hein, une exhortation, un encouragement. Pendant des moments pénibles de la vie, de maladie, où on est découragé, où on a peur, elle envoie. Donc, c'est un signe pour les croyants que Dieu est là, que Dieu agit dans l'Église. Mais aussi, c'est un signe pour les non-croyants. Et je vous ai dit comment. Quelqu'un qui rentre, Dieu peut aussi parler à travers un prophète qui parle d'un péché caché de quelqu'un afin qu'il reconnaisse que Dieu existe et qu'il le montre et qu'il tombe en face et qu'il reconnaisse ainsi de suite. Donc voilà un petit peu l'utilité, le pourquoi de ce don. Exhorter, encourager, révéler peut-être aussi les péchés. Voilà un petit peu pourquoi. Et mais. Malgré tout ça, l'apôtre Paul tient à donner des limites à ce don. Il tient absolument à donner des limites à ce don et nous dire attention, il faut que vous ayez du discernement. Et là, on n'est pas en train de parler du prophète, du discernement du prophète lui-même, mais de nous qui écoutons la parole du prophétie, d'avoir un discernement. Et là, on va le voir. En 1 Thessaloniciens, vous savez ce qu'il va leur dire en Thessaloniciens? Il va leur dire, ne méprisez pas les prophéties. Au contraire, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Quand il écrivait aux Thessaloniciens un peu avant, il les louait de comment eux, ils ont reçu l'Esprit avec joie et la parole de Dieu. Donc, ce n'étaient pas des chrétiens méprisants. Non, ils n'étaient pas comme ça, les Thessaloniciens. Vous pouvez relire sa lettre aux Thessaloniciens. C'était des bons chrétiens. Il les louait. Et pourtant, il leur disait, ne méprisez pas les prophéties, examinez et retenez ce qui est bon. J'y reviendrai. Et aux Corinthiens, il va leur dire de juger. Il va lui dire, deux ou trois prennent la parole et que les autres jugent. Le mot grec veut dire séparer le bon du mauvais. Séparer le bon du mauvais. C'est ça qu'il est en train de leur dire, si on ne veut pas dire le mot juger. Voilà, dire, et séparer le bon du mauvais de ce que vous entendez comme prophétie. Imaginez-vous qu'il dit ça, que les Israélites de temps de Ézéchiel, Zacharie, ainsi de suite, et tous ces prophètes, ils disent, écoutez ce que je dis, ben, retenez ce qui est bon, ce qui ne vous va pas, jetez-le et ne prenez que ce qui vous intéresse. C'est inimaginable hein, d'entendre ça sous l'Ancienne Alliance. Et pourtant, ici, il insiste, non seulement aux Thessaloniciens, mais aux Corinthiens. il leur dit, jugez-en, retenez. Parce qu'un peu plus loin, il leur dit, l'esprit du prophète est soumis au prophète. En d'autres termes, la parole que peut avoir une personne, il peut l'interpréter aussi comme il veut. Et ça, Paul nous dit, nous met en garde contre ça. Il nous dit, faites attention à cela. Ayez du discernement, examinez. Mais c'est un petit peu ce que faisaient les premiers chrétiens vis-à-vis même des apôtres. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Vous le savez. Ah oui. Eh oui. Quand Pierre prêchait, ceux qui l'écoutaient, ils allaient vérifier. Ils scrutaient l'écriture pour vérifier ce qu'il est en train de dire. Ce n'est pas mauvais. Au contraire, on est responsable de nos actes devant Dieu. Vous ne pouvez pas dire, telle personne a dit ceci, je l'ai cru. Chacun est responsable de son acte, de ses actes. Lui, il sera jugé de ce qu'il a dit, et nous serons jugés de ce qu'on a cru. Là, c'est pour cela que les apôtres insistaient sur, c'est pour ça que je vous l'ai dit, la foi a été transmise une fois pour toutes. Elle est écrite. Et les apôtres nous dirigeaient vers ceci. Après avoir autrefois parlé à nos pères par des prophètes, dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Et les apôtres et leurs messages, ce sont eux les envoyés de cette parole. Et Judas dit, la foi a été transmise une fois pour toutes. Et 1 Corinthiens, et l'apôtre Paul persiste et signe. Qu'est-ce qu'il dit ici? Si j'arrive à le lire. Quoi? La parole de Dieu est-elle venue de vous ou bien vous êtes les seuls à qui qu'elle soit parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, ben qu'il reconnaisse que ce que je vous ai dit est un commandement du Seigneur. La parole des apôtres, ce qui nous a été laissé, c'est au-dessus. Vous vous dites prophète? Eh bien, écoutez, hein, si vous êtes prophète, vous reconnaissez que moi, ce que je vous dis, lui, il est commandement du Seigneur. Hein. Lui pouvait dire, j'ai reçu du Seigneur. Hein. Comme les vrais prophètes dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas dit que les prophètes du Nouveau Testament sont des faux. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Je veux juste faire un parallèle entre le poids qu'on met au mot prophète dans notre tête, à cause de ce qu'on connaît de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, et le danger de le transposer tel qu'il est à aujourd'hui. Non. Si le don existe, oui, et on en a parlé, et personne ne peut le nier, aucun ne peut le nier, ce don, il est plus spécifique et plus ciblé que le don de prophète et de prophétie de ceux de l'Ancienne Alliance. Et on nous demande, il est ciblé pour exhorter, il est ciblé pour encourager, pour édifier, et aussi pour montrer le péché de quelqu'un, au cas où. Mais on doit avoir du discernement, et c'est notre devoir de le faire. Juger, séparer le mauvais du bon, examiner. Et sachez quand même que la parole, c'est elle qui est la direction. C'est elle qui est la direction. Alors, continuons notre réflexion. Non. Qu'est-ce que je suis là? Donc, il avait pour but non seulement de... c'est ce que je viens de dire, hein, en fait. C'est ce que je viens de dire. Alors, maintenant, on revient au quatrième point, et l'apôtre Paul, il dit aspirer. Je veux être sûr que vous avez compris ce qu'il y a derrière ce mot aspirer. Un don, on le reçoit, hein? On ne le cherche pas. Là, il dit aspirer, allez le chercher. Donc c'est important ce don. Il dit allez le chercher ce don. Aspirer au don. Alors, Paul, donc, attache une telle valeur à ce don qu'il va dire aux Corinthiens, recherchez ce don, et surtout le don de prophétie. Puis à la fin de son exposé, il recommence, il insiste, il est encadré sont exposés par ces deux exhortations, d'aspirer à ce don de prophétie. Mais on comprend bien pourquoi il a expliqué pourquoi. Parce que ça sert à édifier l'Église. Ça sert à encourager l'Église. Ça sert à exhorter l'Église quand les gens ont besoin d'écouter cette révélation de Dieu. C'est pour cela que c'est important. Paul rappelle aux croyants qui aspirent aux manifestations de l'Esprit qu'ils doivent rechercher avant tout à posséder en abondance celles qui contribuent à faire grandir l'Église dans la foi. C'est ça le but de l'apôtre Paul, que l'Église grandisse dans la foi. Et c'est pour cela que c'est important de rechercher ces dons. Mais dans la limite qu'il lui a donnée. D'accord? C'est dans la limite qu'il lui a donnée. Et là, la question qu'on peut se poser, ne devrions-nous pas rechercher activement ce don précieux dans nos assemblées aujourd'hui? Je vous ai donné l'exemple de Joseph. Il avait un don de prophétie, même si on ne l'appelle pas. Il encourageait, il exhortait. Il encourageait tellement qu'on a changé son nom. On lui dit, non, tu ne t'appelles plus Joseph, tu t'appelles fils d'exhortation. Par la base. Hein? Voyez l'importance. Donc, ne devrions-nous pas. Mais j'aimerais maintenant tempérer un petit peu. Et je vous invite à venir mardi 28 si vous n'êtes pas d'accord. Et on peut en discuter. J'aimerais quand même dire pourquoi l'apôtre Paul a tellement insisté aux Corinthiens et il n'entend plus parler chez les autres. Pourquoi il leur dit ceci, mais allez-y. Parce que si quelqu'un connaît la première lettre aux Corinthiens, qui aurait aimé être dans cette église? Les péchés, hein, quand Paul cite le péché, les péchés qu'il y a dans cette église, ça fait honte de dire, voilà les chrétiens. Il y en a même qui avaient la femme de leur père dans cette église. Et eux, ils se glorifiaient de parler en langue et d'avoir les dons. Il leur dit, mais vous n'avez pas un prophète parmi vous qui reçoit une révélation et qui vous dit où est votre problème? Mais non, ils n'en avaient pas. Ils avaient tous les autres dons, mais ils n'en avaient pas aucun qui leur montre de doigt quel est leur problème. La sentinelle que Dieu cite en Ézéchiel et qui était leur rôle. Il dit, mais vous n'avez pas besoin d'autant de dons. Si vous avez besoin d'un don, c'est d'un don de prophète. Qu'il y ait une sentinelle dans votre église et qui vous montre qu'est-ce qu'il y a dans la vie de chacun qui n'est pas bon. Voilà pourquoi il insiste. Je ne suis pas en train de diminuer la qualité ou la nécessité de ce don. Mais j'ai cité Barnabas. J'ai cité Madame Farelli, ce qu'elle m'a écrit. Et combien de nous aujourd'hui, en aspirant à avoir ce don, ne doivent pas déjà être préparés? Si nous, on est prêts nous-mêmes, en connaissant bien notre Bible, si on est à l'écoute des uns et des autres, ça ne vous est jamais arrivé que Dieu mette à votre cœur une parole de réconfort, un verset biblique que vous adressez à un frère, à une sœur qui avait besoin d'être exhorté, d'être édifié, d'être encouragé. Jamais ça ne vous est arrivé? Si. Mais Dieu nous utilise pour cela. Dieu peut nous utiliser. Peut-être on n'appelle pas ça don de prophétie, mais n'empêche, Dieu fait son œuvre quand même, par l'exhortation, par l'encouragement. Mais il le fait à travers des gens qui connaissent bien leur Bible, qui sont près de Dieu et près les uns des autres. Si on n'est pas à l'écoute des uns et des autres de leurs problèmes, si on n'est pas parmi les gens pour les connaître et savoir leurs besoins, pourquoi Dieu nous mettrait à cœur si nous, on ne fait pas notre devoir? Mais si nous, on est avec Dieu, par sa parole, encouragés par lui, avec lui, en lui, eh bien Dieu va mettre dans notre cœur à ce moment-là des paroles d'exhortation, d'encouragement, et peut-être même une révélation de péché chez quelqu'un. Donc oui, comme l'apôtre Paul, je dis, ne devrions-nous pas rechercher activement ce don précieux aujourd'hui? La réponse est oui, bien sûr. Mais n'oublions pas les limites que l'apôtre Paul a données à ceci. Et pour celui qui prophétise, et pour ceux qui écoutent, notre responsabilité d'avoir le discernement. Et j'ai pas fini, j'ai fini pour aujourd'hui, mais je vous demande, si vous voulez qu'on continue cette réflexion un petit peu au-delà, on va regarder, écouter un petit peu Agabus, hein, parce que là, il y en a beaucoup de choses à dire, pas uniquement sur lui, hein, sur les chrétiens de Césarée, après la prophétie d'Agabus, et l'apôtre Paul, comment il a réagi à cela, on en aura beaucoup de choses à dire là-dessus, et surtout, on peut discuter la partie la plus importante, c'est comment l'Église peut encourager aujourd'hui ce don, sans aller dans l'excès, tel qu'on le voit, hein, comme a dit l'apôtre Paul. Alors, si vous voulez qu'on continue cette réflexion, mardi 28 mai à 20h, on peut la continuer ensemble. Merci de votre attention. J'ai tenu dans les 50 minutes, c'est bon.